En quoi consiste mon travail et comment je le vis? Ben je suis docteur donc. Et théoriquement, je suis censé soigner des gens qui sont soi-disant malades. En fait, ce que je fais surtout depuis 25 ans, je me soigne ici, moi. Et ça marche pas parfaitement bien parce que je suis un peu souffrant, mais ça marche pas trop mal quand même. Dans l'ensemble, je me soigne assez bien en écoutant les malades. C'est-à-dire qu'ils me permettent de faire ma psychanalyse tous les jours et puis ils me paient en plus pour ça. Voilà, en gros, mon travail, c'est ça. Disons que j'ai une vision assez optimiste des choses et je pense que les gens ne sont pas très malades, ni pas souvent malades. Et la plupart du temps, je passe mon temps à essayer de leur expliquer qu'ils sont pas malades. Bien qu'il faut qu'ils renoncent à la maladie parce que, bon. Parce qu'il doit y avoir d'autres façons de s'exprimer. Les malades finissent toujours par avoir raison, parce que un jour ou l'autre, on tombe vraiment malade. Il paraît même qu'on va tous mourir. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps, je crois qu'on va tous mourir aussi. Donc les malades, un jour ou l'autre, ont raison, ils tombent vraiment malades. Mais en attendant ce jour-là, ils sont surtout malades de ceux qui vivent hein, au quotidien en dehors du cabinet. Et moi, l'essentiel de mon travail, c'est de soulager les symptômes qu'ils ont. Et ça peut se faire facilement. Hein. Et puis surtout, d'essayer de leur expliquer ben, qu'il faut qu'ils renoncent à leurs symptômes. Et si c'est pas pour eux, c'est pour me faire plaisir à moi. Voilà, en gros, c'est ça mon travail.
Mais c'est quoi ta spécialité?
Ma spécialité, normalement, c'est les douleurs de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire ce qui touche les os, les articulations, les muscles, les tendons. Alors, on voit, oui, des maladies osseuses, articulaires, ça existe. Ça existe. Mais on voit surtout des gens qui ont mal, des gens qui souffrent. Des histoires de tendinite, ou des histoires de contractures musculaires, des gens qui en ont plein le dos. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Et ils ont vraiment mal. Mais ils sont pas vraiment malades la plupart du temps. Ça arrive, mais c'est relativement rare. Voilà, alors on leur donne de temps en temps des médicaments. Moi, je travaille beaucoup avec des petites aiguilles d'acupuncture. Et puis, j'essaie d'écouter. Et puis, de temps en temps, je demande aux patients de m'arrêter s'ils trouvent que je parle trop. Voilà. Donc je parle beaucoup, j'écoute beaucoup. Enfin, j'essaie. En gros, c'est un peu comme ça.
Comment tu détectes la douleur ou comment tu prends?
La douleur, comment je la détecte?
J'arrive et je te dis,
Tiens, moi, je frappe,
j'ai mal au dos.
je frappe et je regarde comment tu réagis. Non, je crois que j'ai quand même très souvent un a priori vis-à-vis des gens. J'ai pas, mais ça je travaille quand même là-dessus. Je crois que j'ai pas une écoute, je dirais, vierge et neutre au départ. Très vite, j'ai une espèce je dirais, d'intuition qui m'est personnelle et j'ai tout de suite une image que je me fais du patient, de la patiente que j'ai devant moi, avec tout de suite quelque chose que je devrais pas avoir, c'est de la sympathie ou de l'antipathie, hein, que je devrais pas avoir, mais je l'ai très vite. Et avec l'envie donc de soulager ces gens, de ne pas les soulager. Puis ensuite, j'essaie un peu de me remettre en dehors de cette antipathie ou cette sympathie spontanée, de me mettre dans un travail quand même de quelqu'un qui doit soigner. Et j'essaie de voir comment je peux aborder les gens, parce que ils sont tous complètement différents. Il y en a, ben, il faut les laisser parler, il y en a d'autres, il faut les arrêter de suite, parce que sinon on est parti pour 3 mois de par l'autre. Il y en a qu'il faut brusquer, il y en a qu'il ne faut pas brusquer. Des fois, c'est difficile parce qu'on a nos propres désirs de fonctionnement et puis il y a le désir de fonctionnement des patients. Il faut arriver à faire marcher les deux ensemble. C'est pas toujours facile.
Mais comment tu le fais?
Comment je le fais? Ben là aussi, j'ai un a priori. C'est celui dont je parlais tout à l'heure, à savoir que les gens souffrent surtout de ce qu'ils ont dans leur vie, disons dans leurs emmerdes au quotidien. Et j'essaie très vite de rechercher ça, de mettre le doigt ou le disons ou l'attention des gens sur les problèmes qu'ils peuvent avoir. J'essaie de le faire pas trop brutalement, en essayant de poser des questions, en essayant de voir si les gens peuvent le dire d'eux-mêmes sans que je le demande. Et puis une fois qu'on est arrivé autour de ce genre de choses, et c'est en général assez facile parce que les gens sont prêts à parler. On a l'impression que bien souvent, quand ils vont chez les médecins, ils commencent par jeter des radios sur la table en disant: vous allez comprendre tout de suite ce que j'ai, on te balance des radios sur la table. Il suffit d'écarter les radios et de dire: non, non, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, ça m'intéressera mais après. Et puis de, je sais pas, demander simplement aux gens: d'abord, vous êtes qui? Je ne vous connais pas, moi. Hein? Qui vous êtes? Vous avez quel âge? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je sais pas ce qui vous plaît dans la vie, qu'est-ce que. Hein? Voilà. Et puis ensuite, à ce moment-là, les choses arrivent plus facilement. Et bien souvent, c'est les patients qui demandent: mais vous croyez que les ennuis, tout ça, ça peut donner des douleurs? Je dis: je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et en général, ça part comme ça.
Donc, c'est quoi le rôle de la médecine? Parce que là, tu me parles d'un rôle de psy. Tu fais plutôt psy, psychologue que rhumatologue.
Mais je vois pas, moi, d'autres façons de faire de la médecine. Crois que la médecine, ça peut être, à mon avis, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Moi, par exemple, pour comme je tousse, il faudrait que j'aille voir quelqu'un qui veuille bien m'écouter, par exemple. Mais je peux voir un pneumologue, mais un pneumologue qui m'écoute. Alors ensuite, on peut calmer les symptômes, oui, en prenant des médicaments. Mais ça, on peut le faire, on sait bien le faire. Et puis aussi, il faut pas laisser passer. Des maladies trop graves, parce que à force de se rendre malade, les gens peuvent se rendre vraiment très très malades. Ils peuvent même en mourir. Hein. Alors s'ils en meurent à l'âge, disons, où ils ont décidé de mourir, ou à l'âge qui est convenable pour mourir, c'est pas gênant. Hein. Mais s'ils en meurent, s'ils se mettent en danger de mort trop tôt, moi ça me choque un peu et j'ai envie de réagir contre ça. Donc il faut pas laisser passer non plus une maladie grave. Ça, on nous l'apprend très bien, ça, dans nos études et la faculté. À détecter les maladies graves, on nous l'apprend très bien. On nous apprend que ça, malheureusement, mais ça, on nous l'apprend bien. Donc ça, on sait faire. Et dès qu'on a un doute, dès que j'ai un doute, eh bien oui, je cherche les maladies graves. Et puis il y en a. Et les maladies graves, on les soigne aussi. On les soigne aussi, on a des médicaments qui sont efficaces, qui sont souvent dangereux, mais enfin, on les améliore quand même. On peut aussi jouer sur la maladie. Je veux dire, tout n'est pas dans l'imaginaire ou dans la parole. Hein. Il y a aussi quand même une action réelle. Sur les corps qui souffrent.
Et c'est quand qu'il faut aller chez le docteur alors?
Je crois pas que ce soit au docteur à le dire. On va voir son médecin quand on en a envie. Je crois que les gens le sentent très bien, sauf ceux qui peuvent pas se le payer ou qui ont des problèmes de ce genre-là. Et encore actuellement, ça existe pratiquement plus. Mais je crois qu'on a on a le sentiment de savoir quand il faut aller voir son médecin. Des fois, on attend exprès pour être très malade avant d'aller le voir. Des fois, on va le voir trop tôt pour se rassurer. Mais c'est à chacun de voir. Déjà, si on a besoin de se rassurer, c'est déjà un symptôme, donc il faut aller le voir. Voilà. Mais je crois que c'est chacun ça, qui voit ça.
Mais en fait, ce qu'on vient soigner, c'est la tête.
On peut pas séparer la tête du corps parce que le corps il réagit aux émotions, il réagit vraiment. Si on est nerveux, on peut se faire un vrai trou dans l'estomac. C'est pas imaginaire. Même si c'est créé à partir de données émotionnelles ou psychologiques, ça fait une vraie lésion. Donc c'est pas dans la tête, parce que quand on dit aux gens que c'est dans la tête, ils pensent que c'est imaginaire ou que c'est pas réel ou que c'est inventé ou que c'est de la folie ou que c'est du cinéma. C'est pas du tout, c'est du réel. Mais c'est du réel qui vient de simplement d'une idée, de rien du tout de matériel. Voilà. Ah, on est des machines intéressantes, hein, on fait de la matière à partir de rien, voilà, à partir des idées. Le mal au dos, les gens qui ont mal aux articulations, qui ne peuvent pas marcher, qui sont les gens qui sont limités en fin de compte, je dirais, dans leur. Dans leur expression corporelle, dans leur autonomie corporelle, ils sont voilà, ils peuvent pas marcher longtemps, ils peuvent plus courir, ils peuvent plus faire de la montagne, ils peuvent voilà, ils peuvent plus soulever des poids, ils se sentent en fin de compte un peu paralysés. Je dirais, j'ai l'impression d'avoir affaire à des gens qui ont un frein à main, et moi mon travail c'est d'essayer de desserrer le frein à main.
t'as apporté de plus dans
Ah, le plaisir de mettre les aiguilles, d'abord avec un nom comme le mien, c'était complètement inévitable. Je rappelle que je m'appelle bien suite. C'est un moyen d'entrer en contact un peu pervers, un peu agressif, pas très agressif, mais d'entrer en contact physique avec les gens, direct. Hein. C'est important aussi de les toucher, de voir leur corps, de les toucher, de les palper, de mettre quelque chose dessus. Pas simplement de donner quelque chose qui vient de l'extérieur, pas simplement de donner non plus que de la parole, mais d'avoir aussi un contact réel avec les gens. En plus, c'est une technique qui marche bien depuis quelques milliers d'années, qui continue à bien marcher. Je vois pas pourquoi je l'enlèverais de ma boîte à outils. Hein. Moi, c'est pas le seul outil dont je me sers, mais c'est un outil intéressant. Ça permet en plus de voir les gens de façon plus globale, comme disaient les gens qui font des médecines de ce type-là, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens, je ne sais pas moi, s'ils sont gays ou s'ils sont tristes, s'ils préfèrent se coucher tard le soir ou se lever tôt le matin, s'il y a des saisons qu'ils aiment bien ou qu'ils n'aiment pas. Je trouve que c'est des choses intéressantes. Et puis, en acupuncture, nos traitements changent en fonction des saisons. Ça, je trouve ça fantastique de regarder au moment des changements de saison, d'attendre que le temps change et de regarder disons, avant de me mettre au travail, de regarder s'il fait beau ou s'il fait pas beau. Je trouve que ça me met un peu en contact avec l'extérieur. Ça m'enferme pas dans une technique un peu isolée du monde parce que rien n'est isolé, tout marche avec le reste. Hein.
Comment, enfin, explique-moi cette histoire de regarder le temps.
Eh bien, par exemple, il n'y a pas longtemps, on est entré en hiver, là. On est donc fin novembre, mais pour nous, on est déjà en hiver. Voilà. Et donc, je sais à peu près, en fonction de dates théoriques, qui tiennent compte des rythmes. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est à la fois très simple, des rythmes solaires, mais aussi lunaires. Ça n'a rien de compliqué, hein. C'est pas du tout mystérieux. C'est aussi bête que dire que le printemps commence le 21 septembre, c'est aussi un rythme solaire. Hein. Donc je sais qu'à quelques jours près, j'attends le changement de saison pour voir si je change certains des points d'acupuncture dans certains traitements. Eh bien, comme le temps ne change pas au même jour et à la même heure dans toute la zone tempérée de l'univers, ou du moins de notre planète, eh bien je regarde ici, là, à Pau, si ce jour-là, si le temps change, si les nuages disparaissent, ou si la température baisse brutalement ou non, ou si au contraire si elle monte, ou si le vent s'arrête, etc. Hein. Avant, les acupuncteurs, par exemple, regardaient à l'extérieur pour voir si le printemps était arrivé. Ils disaient que le printemps était arrivé le jour où les lapins sortaient de leur terrier. Je trouve que c'est bien pour un médecin de regarder si les lapins sortaient de leur terrier. Je trouve que c'est important. C'est au moins aussi important que de faire une prise de sang et de regarder ce qu'il y a dedans. Voilà.
Ça change quoi dans la médecine?
Ben, ça change le fait que, par exemple, une semaine avant, une semaine après, le patient n'est pas le même. D'abord, il a vieilli, et puis tous nos organes ne marchent pas au même rythme tout le long de l'année. Hein. Quand il fait froid, on a besoin d'avoir un radiateur intérieur qui marche. Quand il fait chaud, on n'a plus besoin. Donc nos organes ne marchent pas tout le temps pareil. Tandis qu'en médecine, on a décidé, en médecine occidentale, on a décidé une fois pour toutes que tout le monde était pareil, que tout le monde fonctionnait de la même façon, que tout le monde avait le même taux de tel ou tel produit dans le sang toute l'année, tout le temps, à toutes les heures du jour et de la nuit. Puis ça, on sait même dans notre médecine occidentale que c'est pas vrai, en plus. Voilà. Mais on n'en tient pas tellement compte. On a une vision très, je veux dire, immobiliste, hein, comme si on avait pris les gens à un moment donné, si on les congelait dans une préparation, et puis là on les examine, on dit voilà, c'est comme ça que ça doit être, et tout le monde doit être comme ça. Mais non, tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde n'est pas pareil au même moment, ni à tous les temps de sa vie.
Et en fonction de ça, tu changes les aiguilles.
Oui, mais même en fonction des symptômes, je veux dire, ce que je dis souvent, par exemple, on ne traite pas de la même façon une colère chez un coléreux, une colère chez un calme. Alors qu'en médecine des médicaments, on va donner le même médicament aux deux. Pour moi, ça n'a pas la même signification.
que ça fonctionne comment les aigus? Ça a quel effet? Où tu dois aller comment, déjà, comment tu sais où
Attends, tu
aller?
t'imagines pas que je vais te dire tous mes secrets? Non, mais tu rêves ou quoi? Non, il y a, non, non, il y a des. Les poèmes ont été répertoriés depuis très longtemps, de façon un peu mystérieuse, parce que les points d'acupuncture ont des propriétés électriques bien réelles, c'est-à-dire ils existent physiquement. Or, les Chinois ne connaissaient pas l'électricité, ils n'avaient donc pas le moyen qu'on a aujourd'hui de les détecter avec un petit galvanomètre ou un appareil de type Pond Weston. On peut les détecter facilement. Disons, le courant passe à certains endroits qui sont les points d'acupuncture et pas ailleurs quand on règle un stimulateur de façon un peu précise. Donc ils les ont trouvés, on ne sait pas comment. Peut-être qu'ils avaient des capacités de perception qu'on n'a plus. Voilà. Et puis ben, les points d'acupuncture, ce sont des sortes de robinets en fin de compte qu'on ouvre ou qu'on ferme, ou sur lesquels on apporte ou on enlève quelque chose en fonction des besoins qu'on a cru détecter chez les gens après un interrogatoire, après un examen, qui est un examen comme un examen clinique normal, hein? Voilà. Et en fonction de ça, donc on essaie de rééquilibrer une balance ou d'ouvrir des vannes ou des écluses pour essayer de rétablir une circulation. Mais c'est comme en médecine, comme quand on écoute ou quand on fait parler les gens. Nous, ce qu'on fait, on ouvre des portes. Là, je dis que j'ouvre des robinets ou des vannes, c'est vrai, hein? On ouvre des portes, mais si le patient ne veut pas passer, ou s'il veut pas, disons, s'il veut pas laisser s'écouler le liquide par le robinet qu'on a ouvert, il peut aussi, hein, il a toujours la possibilité de résister au traitement, de pas guérir, voilà. Il peut aussi nous faire le plaisir de guérir avant que notre traitement ait pu faire de l'effet. Ça arrive aussi, hein, ce qu'on appelle l'effet placebo. Mais ça, on le voit tous les jours aussi avec les médicaments, hein. Je crois que c'est vraiment une espèce de jeu qu'on joue entre les patients et nous, et puis le milieu extérieur sur lequel on n'a pas trop de prise. Moi, vraiment, mon travail, c'est d'essayer de convaincre les gens, bah, après tout, que c'est intéressant de guérir, quoi. Malgré le plaisir que j'ai à aller voir ici en consultation, et même si eux ont du plaisir à venir me voir, il y a peut-être des plaisirs plus intéressants à l'extérieur. Voilà.